France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la plus grande mutinerie de prisonniers américains matés dans le sang, prison d'Attica, est à New York. Entre le 9 et le 13 septembre 1971, plus de 1000 détenus se rebellent contre un système carcéral qu'ils jugent inhumain et raciste. Retenant une quarantaine d'agents pénitentiaires en otage, ils prennent possession d'une des cours de la prison. Et, fait historique, les insurgés parviennent à y faire entrer des caméras et un groupe de médiateurs composé de journalistes, de juristes et de militants sensibles à leur cause. Majoritairement organisé par des détenus noirs, ce soulèvement d'Attica se déroule dans un contexte de lutte autour de la question des droits civiques et du racisme comme un miroir. Au mouvement de révolte historique des détenus répondra l'extrême violence de l'assaut policier qui fera 39 morts, illustration du Law and Order, du très droitier président d'alors, Richard Nixon, l'homme de la loi et l'ordre. Notre invité aujourd'hui, Philippe Artière, historien. Il a dirigé l'ouvrage intitulé Attica 1971, paru aux éditions du Point du Jour. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Attica est une petite ville de quelques milliers d'habitants de l'État de New York, à mi-chemin entre Buffalo et Rochester, sur la côte est des États-Unis. Nous sommes en 1971. Les hommes d'Attica qui ne travaillent pas à la ferme sont employés à la prison de la ville. Ah, du travail, il y en a. Le centre correctionnel d'Attica est le plus vaste de l'État. 2240 hommes y sont incarcérés sur une surface de 22 hectares. Le philosophe Michel Foucault, qui la visitera en 1972, la qualifiera d'espèce de forteresse factice dans le style de Disneyland, où l'on a donné au Mirador des allures de tour médiévale, un paysage grotesque qui écrase tout le reste pour l'intellectuel français, auteur de la somme remarquable sur le monde carcéral, le célèbre Surveiller et punir. Formule à laquelle le pénitencier répond de la façon la plus radicale qui soit. Il faut dire que 62% des détenus qui y sont enfermés ont été condamnés pour des crimes violents, homicides, viols, attaques à main armée, et 70% sont des récidivistes. D'ici, on ne s'évade pas. Un mur de 9 mètres de haut est là pour décourager les plus motivés. L'établissement compte 5 blocs d'incarcération, dont 4 sont reliés par des corridors ouverts, sorte de tunnels qui se rejoignent au centre d'une cour intérieure, une jonction surnommée Times Square. Les cellules individuelles mesurent 1,80 m de large sur 2,70 m de long. Des cercueils pour personnes vivantes. 3 murs les entourent, mais en lieu et place du quatrième, de simples barreaux qui donnent sur un couloir, de sorte que d'un seul coup d'œil, les gardiens peuvent voir toute la cellule. Impossible d'échapper à leur regard. L'ameublement, évidemment, est des plus spartiates. Un lit, un tabouret, une petite table, un petit meuble de rangement en métal, une ampoule nue, un haut-parleur pour le système radio, une cuvette WC et un seau d'eau froide. Voilà. Les détenus manquent de tout. La vie à l'ombre des miradors d'Attica est dure, très dure, indigne même, comme en témoigne un ancien détenu.
Un rouleau de papier toilette devrait vous durer un mois. Il fallait être un magicien, déchirer des feuilles de papier dans des livres ou des trucs comme ça pour s'essuyer le derrière. Les gars se plaignaient des choses basiques. Papier toilette, dentifrice. Ils voulaient plus d'un changement de drap par mois. Des choses comme ça, des vêtements nettoyés, des produits d'hygiène. Ils voulaient être traités comme des êtres humains.
Les chiffres sont éloquents. L'alimentation, l'habillement et les soins médicaux des détenus constituent moins de 9% du budget de l'établissement. La direction de la prison dépense 63 centimes de dollars par jour et par prisonnier pour les repas, pas un de plus. Les détenus sont aussi privés de nourriture intellectuelle. Derrière les murs d'Attica, pas de liberté d'instruction, alors que les trois quarts des condamnés n'ont jamais fini le lycée. Pas de liberté d'exercer une activité politique et pas de liberté de culte. Enfin, côté santé, 2 médecins pour 2000 détenus.
«
Mais c'est surtout la question raciale qui est explosive à Attica. 54% des détenus sont noirs, 9% portoricains. Ils sont en majorité issus des quartiers difficiles de New York et ils sont les plus mal lotis, relégués aux emplois les moins bien rémunérés. Les prisonniers portoricains, eux, souffrent d'une discrimination particulière. Comme les agents pénitentiaires ne savent pas lire l'espagnol et qu'ils ne peuvent donc pas surveiller le contenu des courriers, ils jettent tout simplement la poubelle les lettres qui sont destinées à ces prisonniers-là. Un autre détenu se souvient, lui, de la violence et du mépris des gardes avec qui le choc culturel est total.
Il n'y avait pas de gardes noirs à Attica. Il n'y avait pas de gardes hispaniques. Ils étaient tous blancs. Des mecs qui venaient des environs, qui ne savaient rien de nous. Nous qui venions de Brooklyn, de Manhattan, du Bronx. Ils ne savaient rien de cette culture. La plupart d'entre eux ne voulaient même pas nous adresser la parole. Ils nous balançaient des « me parle pas, me parle pas ».
Le 2 juillet 1971, 5 détenus adressent une liste de revendications à Russell Oswald, directeur des services pénitentiaires de l'État de New York, plutôt connu pour ses vues progressistes. Ils envoient une copie au gouverneur républicain de l'État, Nelson Rockefeller. Un courrier auquel Oswald répond, certes poliment, mais qui ne débouche sur aucune amélioration concrète dans la vie des détenus. Il se trouve que hors les murs de la prison, la mairie gronde. Les années 60 sont marquées par les combats de la gauche et la montée en force du movement, une vaste nébuleuse où se retrouvent aussi bien les militants noirs pour l'égalité et la justice, dont leur frange la plus radicale, les Black Panthers, que des opposants à la guerre du Vietnam ou des adeptes de la contre-culture hippie. Mais à la Maison-Blanche, on entend bien mettre un terme à cette chienlit. Nixon s'est fait élire en 1968 sur la petite musique du Law and Order, la loi et l'ordre. Ces clips de campagne sont d'ailleurs sans ambiguïté. Ils disent qu'il est urgent de donner un sérieux tour de vis à un pays au bord de l'implosion.
Il est temps de jeter un regard honnête sur le problème de l'ordre aux États-Unis. La dissidence est un ingrédient nécessaire du changement. Mais dans un système de gouvernement qui prévoit un changement pacifique, il n'y a pas de cause qui justifie le recours à la violence. Reconnaissons que le premier droit civil de chaque Américain est d'être libre de toute violence. Je vous en fais donc la promesse, nous mettrons de l'ordre aux États-Unis.
C'est le énième assassinat d'un activiste qui va faire monter la tension d'un cran à Attica. Le 21 août 1971, George Jackson, un membre des Black Panthers, incarcéré à la prison de San Quentin, à l'autre bout des États-Unis, en Californie, est tué par ses gardiens. Figure de la résistance à la répression en prison, auteur de textes majeurs, Jackson est connu et admiré de beaucoup de prisonniers. Pour lui, la violence du système carcéral, l'oppression et la frustration exercées sur les hommes noirs sont le reflet de leurs conditions dans la société américaine, dehors, comme il évoque en 1971, peu avant sa mort.
Je pense que le racisme, c'est un dispositif de contrôle, un mécanisme de contrôle. Ça crée une atmosphère qui leur permet de vous contrôler. Bien sûr, ici en prison, nous voyons la répression, l'exploitation, la victimisation des gens des classes inférieures.
À Attica, la mort de Jackson provoque une colère d'abord froide. En signe de protestation, le 22 août, dans un silence de mort, les détenus se présentent au réfectoire avec un brassard et refusent de prendre leur petit déjeuner. 15 jours plus tard, un événement, à première vue anodin, va pourtant tout faire exploser. Lors de la promenade, deux prisonniers commencent à s'entraîner à la lutte. Croyant d'abord à une rixe, un gardien, puis deux interviennent. Un attroupement de détenus se forme, et très vite la situation dégénère. D'abord verbalement, puis physiquement. Un prisonnier, William Ortiz, blesse l'un des bleus marines à la tête avec une boîte de conserve. Le vendredi 9 septembre, le service des petits déjeuners commence normalement. Sur ordre de la direction, Ortiz doit rester dans sa cellule. Mais l'un de ses co-détenus parvient à le libérer en brisant la serrure de sa cellule. Et c'est le début de la mutinerie. Au retour du réfectoire, les prisonniers s'en prennent à l'un des deux surveillants de la prison qui tente de reprendre le contrôle de la situation. Les détenus alors attaquent d'autres gardes à proximité et prennent leurs clés. Armés de bâtons de fortune, ils investissent la principale intersection de tunnels entre les quatre blocs de cellules au centre de la prison, Times Square, comme ils disent. Alors qu'ils affluent, un surveillant, William Keane, est violemment tabassé. Son crâne est fracturé. Il tombe en coma. Les sirènes de la prison se font entendre à des kilomètres à la ronde. À midi, plus de 1200 émeutiers sont rassemblés dans la cour et retiennent en otage 43 membres du personnel pénitentiaire. Al Victory, un ancien détenu, se souvient d'un moment d'euphorie et d'une grande bouffée de liberté.
Plus personne ne nous menaçait, vous voyez. Ça semble fou, mais c'était ça. Vous savez, quand vous avez un peu, même un tout petit peu de contrôle sur votre propre vie, même un court instant, et même si vous savez que ça va vous coûter très cher, c'était un moment d'euphorie, le fait de reprendre le contrôle sur nos vies. Au début, c'était le chaos total. Des gars sortaient avec de la nourriture, des vêtements, montaient des tentes. L'heure était à la fête, on était libres.
Très vite, l'improvisation fait place à l'organisation. Les mutins désignent des détenus pour servir comme infirmiers ou même agents de sécurité, oui, pour protéger les personnels de la pénitentiaire des coups et abus. Et surtout, ils élisent des dirigeants pour les représenter, mener les négociations avec les autorités. Dans l'après-midi, Russell Oswald, le directeur des services pénitentiaires de l'État, auquel les prisonniers ont déjà écrit plus tôt, pendant l'été, arrive à Attica. Il n'a pas l'intention d'ouvrir immédiatement des négociations, mais la présence inattendue de deux personnalités l'oblige à revoir sa position. Devant les portes de la prison, il voit en effet Arthur Eve, élu à l'Assemblée, et Hermann Schwartz, professeur de droit et spécialiste des droits des prisonniers. C'est d'abord seul que les deux hommes pénètrent dans la prison. Ils rejoignent une table où leur est remise une liste de 6 revendications rédigées par les mutins. Certaines sont complètement irréalistes, comme leur souhait d'être transférés, disent-ils, vers un pays non impérialiste ou de traiter en direct avec les autorités fédérales. Les détenus demandent également l'amnistie complète, à savoir l'absence de toute représailles pour leur action. Et aussi l'implication d'intermédiaires dans les négociations, dont des journalistes. Des conditions que Russell Oswald accepte. Les trois hommes reviennent donc dans la cour de la prison en fin d'après-midi, accompagnés de reporters, notamment de la radio et de la télé. Un tournant majeur dans la mutinerie, mais aussi dans l'histoire. Parce que, traditionnellement, les prisons sont des lieux tenus loin des yeux du public. Elles sont faites pour ça. Rarement les caméras de télé ont été admises en leur enceinte. Raison de plus dans une prison en plein soulèvement. Aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, les mutineries sont réprimées dans un immense silence. C'est donc devant une équipe de Buffalo Télé qu'un jeune détenu de 21 ans, Elliot Barclay, s'exprime. Lui n'a rien à faire dans une prison de haute sécurité comme Attica, où il purge une peine de quelques mois pour conduite sans permis. Sacrificiel, il prend la parole avec force, au nom de ses camarades.
Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des bêtes et nous refusons d'être battus ou traités comme tels. L'ensemble de la population carcérale a entrepris de changer à jamais la brutalité impitoyable et le mépris de la vie des prisonniers ici et dans tous les États-Unis. Ce qui s'est passé ici n'est que le bruit avant la fureur de ceux qui sont opprimés.
Les mutins ont rédigé de nouvelles demandes. De 6 revendications, ils sont passés à 15, dont la liberté politique et religieuse, un accès à la presse et de véritables programmes d'éducation et de réinsertion. Elliot Barclay réitère donc la demande de constitution d'un comité d'une trentaine d'observateurs intermédiaires. À leur liste de départ, les mutins ont ajouté d'autres noms. Des personnes des médias, du monde juridique ou des militants des droits humains qu'ils considèrent comme des alliés. Et puis, toujours, ils veulent cette amnistie. Alors Hermann Schwartz saute dans le premier avion pour le Vermont, où les juges fédéraux de l'État de New York sont en congrès. Son but, obtenir d'urgence une ordonnance qui actera cette interdiction de représailles. Car il le sait, le temps est compté. À tout moment, le gouverneur Rockefeller peut décider de mater la rébellion par la force. Il a d'ailleurs déjà demandé des renforts. La première journée de mutinerie à Attica se termine sur une note d'espoir. Les négociations semblent même bien parties. Hermann Schwarz, le professeur de droit, revient. Comme promis, le lendemain du début de la mutinerie, avec une ordonnance d'injonction, censée protéger les détenus contre un retour de bâton des autorités. Pourtant, la situation se tend lorsque les prisonniers, toujours rassemblés dans la cour, constatent que le document ne présente pas de sceau officiel. Un détail juridique, mais qui provoque la défiance d'une partie des mutins, le document finit à la corbeille. Russell Oswald, le directeur des services pénitentiaires, jugé peu fiable et peu honnête dans la tenue des négociations, cristallise alors la rancœur des insurgés. Où sont les nouveaux observateurs demandés la veille? Et la nourriture et l'eau promise? Un détenu excédé suggère même de retenir Oswald comme otage. Option vite écartée, mais qui persuade le directeur des services pénitentiaires de ne plus remettre un pied dans la prison pour négocier en personne. Et pendant ce temps, les fameux observateurs commencent à arriver. Certains sont de véritables poids lourds. Tom Wicker, journaliste réputé du New York Times, est là. Bill Kunstler, avocat des droits civiques renommé, est présent, lui aussi. Interrogé par les journalistes devant le pénitencier, il se montre optimiste.
Vous avez eu des nouvelles du bureau du gouverneur Rockefeller? Est-ce qu'il a posé une limite de temps à ces négociations?
Non, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait actuellement pas de plan pour recourir à la force dans cette prison. Et j'espère que cela continuera. J'espère juste qu'il réalise que c'est une situation unique et que cela peut prendre du temps. Et que si tout le monde est de bonne foi, les choses vont s'arranger.
Le gouverneur Rockefeller ne voit pas d'un très bon œil l'entrée en scène de personnalités fortes comme Kunstler. Leur rôle n'a pas été déterminé avec précision, certes, mais le gouverneur et son équipe ont d'abord pensé que ces observateurs resteraient en terrain neutre et se contenteraient d'être de simples passe-plats entre les détenus et les autorités. Et lorsqu'ils découvrent leurs identités et leurs vues politiques, souvent dans l'opposition ou membres d'organisations politiques contestataires, ils commencent à s'inquiéter. Oswald, leur réformateur, n'est-il pas allé trop loin? Quoi qu'il en soit, en fin de journée, le 10 septembre, tous font leur entrée dans la cour et s'attablent avec les mutins, qui pour une fois se sentent écoutés, soutenus même. Les prises de parole de prisonniers s'enchaînent. celle de Flip Crawley en particulier, déclenche une ovation.
Nous ne prenons pas la violence. Nous voulons tous vivre. Tous. Si certains d'entre vous, messieurs, possèdent des chiens, ils sont mieux traités que nous durant cette dernière année. Nous voulons être traités comme des êtres humains. Nous serons traités comme des êtres humains. Nous sommes arrivés à la conclusion, après beaucoup de souffrances, après y avoir beaucoup réfléchi, que si nous ne pouvons pas vivre comme des personnes, nous essaierons au moins de mourir comme des hommes.
À 5 heures du matin, les observateurs quittent la cour après avoir assuré aux mutins qu'aucun assaut n'était en cours de préparation. Mais le samedi 11 septembre, la tension monte d'un cran. Il y a toujours plus de journalistes, toujours plus de forces de l'ordre devant les murs d'Attica. 500 gardes, des soldats de l'État et des shérifs adjoints, dont beaucoup lourdement armés, sont désormais sur place. Les familles des otages se pressent, affolées, ivres de colère contre les émeutiers, à l'affût de la moindre information. C'est dans cette ambiance de plus en plus mortifère que, durant l'après-midi, le dialogue reprend entre Russell Oswald et le comité de négociateurs, qui, dans un souci d'efficacité, s'est resserré autour de 5 personnes, dont l'avocat Kunstler. Une nouvelle liste de demandes, encore allongée, elle en comporte maintenant 33, est remise au directeur des services pénitentiaires. Il en accepte 28. Un excellent signal pour les observateurs, même si l'amnistie pour tous ne fait toujours pas partie du lot. Reste à savoir comment cette main tendue va être reçue par les mutins. Une personnalité va venir compliquer les négociations. C'est Bobby Seale, le numéro 2 des Black Panthers. Un véritable héros pour les prisonniers, car il parle haut et fort de la brutalité du système carcéral. Son passage est clair, il ne restera en fait pas plus de quelques minutes avec les mutins. Sabote les efforts pour parvenir à une sortie de crise, parce que, au lieu de pousser les détenus à sceller un accord avec Oswald, il explique qu'il ne peut rien faire sans en référer au comité central des Black Panthers. Et c'est l'échec. Les mutins refusent de conclure l'accord. Et puis éclate une nouvelle bombe qui marque un tournant, elle aussi, dans la mutinerie. William Keane, le gardien frappé à la tête lors de la prise d'Attica, a succombé à ses blessures. Clarence Jones, l'un des membres du comité d'observateurs, se souvient.
J'ai immédiatement compris que le processus de négociation s'était considérablement compliqué. Je savais que c'était la pire chose qui pouvait arriver. Comment allaient-ils, les autorités pénitentiaires, pouvoir négocier pacifiquement avec des détenus qu'ils tenaient comme responsables de la mort d'un garde?
Effectivement et sans surprise, les autorités durcissent leur position. Accorder l'amnistie n'est définitivement plus une option. Les mutins, eux, ne veulent pas céder. Ça ne sent pas très bon. L'ultime journée de la mutinerie, le dimanche 12 septembre, se déroule dans un climat, disons, d'attente. Une lassitude et un découragement s'emparent alors de tous les acteurs des négociations. La situation semble complètement enlisée. Un unique espoir, ténu, subsiste pourtant. L'hypothétique arrivée de Nelson Rockefeller, le gouverneur de l'État de New York, grand absent de la crise. Depuis le début de la mutinerie, les détenus le réclament. Au troisième jour, tous, médiateurs et autorités pénitentiaires comprises, l'attendent comme le Messie. L'un des otages dira même devant les caméras de télé « S'il ne vient pas, je suis mort ». Tom Wicker, le journaliste du New York Times, qui le connaît personnellement, lui téléphone. Oswald aussi tente de le convaincre. Alors il écoute, poliment. Mais rien à faire. L'homme politique refuse de se rendre à Attica. Et il assume devant les journalistes.
Les prisonniers ont exigé dès le début que je vienne dans la cour et je pense franchement que l'implication des gouverneurs, à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement ou une prise d'otage, a un effet. C'est de faire que la prochaine étape, ce soit nous ne voulons pas le gouverneur, nous voulons le président. Et nous arriverons à une situation impossible pour ce pays.
À Atomiqueur, Rockefeller explique que négocier avec les agitateurs d'Attica constituerait, je reprends ces mots, une sérieuse mise en cause de la capacité d'un gouvernement libre à maintenir l'ordre. Le gouverneur veut surtout s'assurer des bonnes grâces de Nixon et du Parti républicain, lui qui a la réputation d'être un peu laxiste sur les questions sécuritaires. À Attica, alors que Rockefeller est en villégiature à plus de 500 km de là, l'air devient irrespirable. Des rumeurs folles et complètement infondées se répandent dans la ville depuis déjà 2 jours. Les mutins castreraient et tortureraient les otages. Les observateurs seraient systématiquement insultés lors de leurs allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur et autres fantasmes sécuritaires. Parmi les forces répressives présentes, la garde nationale, la police d'État de New York et les personnels pénitentiaires. L'impatience et la haine sont à leur comble. La situation est clairement explosive. Et ce qui devait arriver arrive. Après discussion avec Nixon, Rockefeller décrète la reprise d'Attica par la force. Ce n'est que le lendemain matin que l'assaut est donné. Dans une vaine tentative de repousser l'échéance, certains mutins retiennent physiquement des otages et leur placent un couteau sous la gorge. Un hélicoptère de la garde nationale commence par lâcher des gaz lacrymogènes et ordre est donné aux mutins de se rendre. You will not be harmed, vous ne serez pas blessé. C'est pourtant un déluge de feu qui s'abat sur Attica. Les opérations sont lancées dans la plus grande confusion, sans réel commandement, laissant 189 soldats, dont certains mal formés et animés par un esprit de vengeance, libres d'utiliser leurs armes à feu depuis les coursives. Alors les balles sifflent pendant de longues minutes. 6 minutes. Mais une éternité pour les détenus, équipés tout au plus de couteaux et de bats de baseball. Une fois les gaz dissipés, l'horreur apparaît. À Attica, un massacre vient d'avoir lieu, l'un des pires de l'histoire de l'Amérique, mené dans une logique d'anéantissement. Une centaine de corps, morts, blessés ou agonisants, des mardeaux de pluie devenus roussants. La besogne, la sale besogne accomplie. Certains auteurs du massacre ne cherchent pas à cacher leur satisfaction, voire affichent un racisme décomplexé, même face aux caméras télé qui filment des points levés et qui enregistrent des « white power » exaltés. Dans les salons du Capitole et de la Maison Blanche, l'heure est aussi à l'autocongratulation. Quelques heures après le carnage, Richard Nixon décroche son téléphone pour appeler Nelson Rockefeller.
Monsieur le Président,
je sais que vous avez eu une journée difficile, mais je veux que vous sachiez que je vous soutiens sans réserve. Le courage que vous avez montré et votre décision de ne pas accorder d'amnistie était juste. Si vous aviez accordé l'amnistie, cela aurait mis les prisons en ébullition à travers tout le pays. Je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que vous aviez affaire à des... Il s'agissait avant tout de Noirs ?
Oh oui, tout cela était mené par les Noirs.
C'est hallucinant. Est-ce que tous les prisonniers tués étaient tous Noirs ? Où y a-t-il eu des blancs ?
Je n'ai pas eu cette information, mais je dirais oui à première vue.
Ok.
Ça a été vraiment une magnifique opération.
Bilan de la magnifique opération, 29 prisonniers et 10 otages tués. La mort de ces derniers sera dans un premier temps attribuée aux mutins, accusés de les avoir égorgés. Il faudra que des légistes rétablissent la vérité. Non, ce sont les balles des assaillants qui les ont tués. Une fois reprise, au nom de la loi et l'ordre, Attica devient plus que jamais une zone de non-droit et le théâtre du calvaire des insurgés survivants. Les leaders sont pris pour cible et torturés. Elliot Barclay, le jeune porte-parole de 21 ans, qui devait retrouver la liberté quelques jours après, est emmené à part par les gardes, hurlant. Il est exécuté d'une balle à bout portant. Des autres sont l'objet de violences et d'humiliations. Les gardes les font ramper nus dans leurs excréments, les battent, les font marcher sur des morceaux de verre. Leur sadisme n'a pas de limite. Avant de quitter Attica, un colonel de la garde nationale s'adressera à ses hommes pour leur dire, lucide, « Vous avez vu des choses excessives et immorales aujourd'hui. N'en parlez à personne. Le monde ne comprendrait pas ce qui s'est passé. » Quant à la commission McKay, chargée d'enquêter sur la mutinerie, elle affirmera dans son rapport en 1972, à l'exception des massacres d'Indiens à la fin du 19e siècle, l'assaut de la police de l'État de New York, qui mit fin à ses 4 jours de soulèvement, fut la journée la plus sanglante de combat entre Américains depuis la guerre de Sécession.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Ooh, know that.
Yeah, know that.
Get it.
Yeah, yeah.
Work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Paco.
Blah. Ooh, America. I just checked my following. Listen, you motherfuckers owe me.
Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la révolte des prisonniers d'Attica, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Artière. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes historien, vous avez dirigé l'ouvrage intitulé Attica 1971, paru aux éditions du Point du Jour. D'abord et avant tout, quelles ont été les conséquences pour les mutins survivants au pénal? Je veux dire, on a vu que certains ont été chopés, qu'à le dire, et torturés, hein, victimes de la haine, de la vengeance des gardiens. Mais les autres, est-ce qu'ils ont une extension pénale, genre cachot pendant je ne sais combien de temps? Est-ce qu'on sait ça?
Alors le disciplinaire, il est très très important dans les prisons américaines et les fameux quartiers disciplinaires. Il y a un certain nombre de mutins, puisque l'objectif était quand même de trouver des leaders dans ces 1200 énormes mutineries collectives, et de trouver les leaders, c'était ceux qui avaient pris la parole. Et ceux qui avaient pris la parole, ils sont soit abattus, comme on l'a vu, soit transférés. Et ce principe du transfert est, je dirais, très courant dans la manière de sanctionner des mutineries parce que Attica déjà est un ostracisme. Attica est déjà très loin des familles, très loin de tout le monde. Et ce qui va se passer, c'est plutôt des procédures juridiques très très longues d'un certain nombre de ces leaders contre l'État de New York. Et ça va mettre quasiment 40 ans.
Mais la sanction qui consiste à les transférer, c'est pour les éloigner encore plus de leur famille, donc c'est totalement punitif, c'est ça? Ou c'est pour sécuriser la prison?
Non, c'est punitif. C'est punitif parce que d'abord, cette ville que vous avez très bien décrite, cette petite ville d'Attica, elle est à l'extrémité de l'État. Et pour les familles, y venir, ça constitue un véritable sacrifice, une expédition. Il faut partir la veille, il faut prendre le bus, ça coûte cher, il faut loger sur place pour pouvoir entrer éventuellement dans Attica. Et vous imaginez bien que une prison qui a plus de 2300 détenus, la question de l'arbitraire de la visite est très forte. C'est-à-dire que le pouvoir pénitentiaire est extrêmement fort. Et c'est ce que, justement, Oswald sait.
Le directeur de la pénitentiaire.
Et c'est tout ce paradoxe-là qui est dans Attica. C'est-à-dire que c'est une ville qui est déjà plus qu'une prison, puisque c'est pas Sing Sing, c'est pas les Tombs, c'est grandes prisons new-yorkaises légendaires, mais c'est une prison construite et volontairement construite très loin. Et pourquoi elle a été construite très loin? Parce qu'elle est née, en fait, dans un contexte de mutinerie.
D'accord. Je passe à une autre question, mais qui est liée. Les forces de l'ordre qui ont tué des détenus et certains de leurs collègues, leur furie répressive, il leur est arrivé quoi à eux?
Alors, à eux, spécifiquement, rien. Et l'un des points tout à fait particuliers qui pourra peut-être choquer les auditrices ou les auditeurs, c'est qu'il y a même un recours des surveillants qui ont été abattus, puisque il y a neuf surveillants qui meurent en plus de Keane qui meurt au milieu de la mutinerie, et qu'on découvre en fait qu'une majorité de ces surveillants ont été exécutés par des balles
d'autres surveillants
ou de la garde nationale.
Et donc ils font quoi alors?
Et donc ils font un recours administratif, et ce recours, c'est ce qu'on appelle les victimes oubliées d'Attica.
D'accord.
Mais c'est dans les années 90.
Ouais, 20 ans après quoi.
Ouais.
Qui sont ces gardiens qui acceptent d'appliquer les règles inhumaines de la prison? C'est des sadiques, des racistes, des demeurés ou tout ça à la fois, non?
Alors là, on revient dans le monde carcéral et dans ce qu'est le monde carcéral au XXe siècle, c'est-à-dire d'abord, est-ce qu'il est encore, mais d'une manière un peu autre, un bassin d'emploi.
Oui.
C'est-à-dire que la prison d'Attica, la municipalité d'Attica, quand au début des années 30, à la suite de mutineries à Auburn ou dans d'autres prisons américaines de l'État de New York ou de la côte Est, on décide de construire cette immense prison. Vous l'avez très bien décrite, hein, cette prison qui est une sorte d'énorme pénitencier. S'il l'accepte, c'est qu'il sait très bien aussi que sa ville d'Attica va connaître un essor économique important.
Oui. Enfin, s'ils y vont parce que c'est là qu'il y a du travail, c'est pas forcément rassurant non plus.
Non, c'est pas rassurant, mais à Fontevraud, c'était le cas aussi.
Oui.
Les prisons ont toujours été source d'emploi.
Je parle des gardiens aux États-Unis. Je n'ai pas parlé des gardiens en France, surtout.
Des surveillants. La prison emploie du monde, et emploie du monde aussi qui n'a pas de qualification.
Oui.
Effectivement, on passe de la ferme à la prison très très facilement. Non pas que les fermiers n'aient pas de qualification, mais éventuellement leurs enfants peuvent ne pas en avoir parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc, d'un côté, on a ce monde très bien décrit par toute une littérature qui est celle des petits blancs, des petits blancs d'Amérique. Hein,
Alors, ils sont tous blancs, les surveillants, rappelons-le, ils sont tous blancs. C'est pas hasard, quand même.
C'est pas hasard, non, puisque, encore une fois, cette prison, elle est construite très loin de Big Apple. Et Big Apple est des côtes, de la côte Est, de Chicago. Donc de toute cette zone.
On est donc dans l'Amérique blanche.
On est dans l'Amérique blanche, pas l'Amérique des rednecks. Donc il faut pas non plus surjouer. On n'est pas dans les fermes que Danny Lyon au même moment photographie. Ces fermes pénitentiaires du sud des États-Unis.
J'allais dire au Texas ou.
Oui, et qui sont quasiment la reproduction des grandes plantations esclavagistes.
C'est ça.
On n'est pas dans ce monde-là. D'accord. On est dans un monde où on a en fait deux misères l'une en face de l'autre.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Ça ne veut pas dire que il y a pas de violence, il y a pas de rancœur. Mais disons que à ce moment-là, il y a deux misères. Il y a une misère qui s'exprime. C'est celle des minorités. C'est celle de la contestation. C'est celle qui prend beaucoup de place aux États-Unis à ce moment-là. Mais et les enfants de ces minorités et les enfants blancs partent dans un endroit qui est beaucoup plus loin qu'Attica et qui s'appelle le Vietnam.
C'est vrai. Et c'est important. Ça veut dire que cette prison est quelque part le miroir d'une certaine Amérique. Hein. Pas de toute l'Amérique, mais quand même de l'Amérique. Vous diriez ça ou pas ?
Miroir
un peu déformant, bien sûr, même parce qu'il est très violent. Mais
c'est son paradoxe, et vous l'avez souligné dans le récit, c'est que l'État de New York est un État plutôt progressiste en matière pénitentiaire.
Mm-hmm.
Donc, elle n'est pas le miroir de l'Amérique de ce point de vue-là. Elle n'est pas comme Saint-Quentin.
Oswald est ça, d'ailleurs. Oswald représente ça.
Il représente ça. Elle n'est pas comme les prisons californiennes, qui sont des prisons où Jackson est mort, où il y a une répression quotidienne anti-africain-américain.
Alcatraz, par exemple.
Ou Alcatraz, à San Francisco. Enfin, ces grands établissements. Néanmoins, Attica est justement parce que ce lieu-là est un peu invisibilisé, comme on dit aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et c'est bien parce que il est invisibilisé que Oswald se dit ça va passer.
Ouais, bien sûr.
Si c'était Saint-Quentin, c'est pas possible parce qu'à Saint-Quentin, il y a George Jackson, un peu plus loin, il y a Angela Davis. Donc c'est le moment où tous les leaders des Black Panthers sont emprisonnés. Si c'était à Chicago, ce serait pas possible non plus.
Ouais,
mais là, on est dans une sorte de lieu où finalement quelque chose va être possible. Et de fait, là, on y reviendra. Mais ce morceau d'Archie Shepp dit bien ça aussi. C'est quelque chose est possible, c'est-à-dire un soulèvement est possible.
Ouais.
Et il faut quand même voir que ces 2200 ou 2300 détenus, ils sont gardés par 500 personnels pénitentiaires, c'est énorme.
Et c'est aussi le champ des possibles, et on va y revenir juste après le disque, avec la négociation menée aussi par des éléments extérieurs, des journalistes, avocats. Ça, c'était très nouveau. On y revient après avoir écouté Big Flower, Heoli et MC Solar, bons élèves.
Flash, photographe, autographe, et puis crash. Tout le monde te lâche, oui, le monde peut être trash.
Je suis un produit, moi et mes mots, que l'on consomme en chantant mes sentiments dans des morceaux, sur des albums que je vends. Je pense aux concerts, je pense aux radios, à la télé, et évidemment. Je donne ma chair, mes idéaux, et je ressens un vide en moi. Est-ce qu'on devient toujours ce qu'on dénonce? Mes fans m'appellent par mon prénom. Tic-tac, tic-tac, c'est le décompte. Ils veulent de moi toutes les réponses. Bien sûr que j'ai exagéré un peu. En vrai, je vous connais pas. Et je vois bien qu'Oli le vit mieux que moi. Que des deux, je suis le moins sympa.
Ils disent tout ça.
Le rap m'a sorti sa facture. Moi qui l'avais appelé au secours. Des milliers d'inconnus qui m'aiment. Comment tous les aimer en retour? On a beau le dire, mais dans l'absolu, pourquoi on oublie l'atterrissage? Voilà l'ironie. Je voulais être connu. Et maintenant que je le suis, je cache mon visage.
visage. Et plus on s'élève, plus on s'enlève de ce qu'on surplombe. Tout le monde veut devenir célèbre. Tous les gens célèbres voudraient être tout le monde. Alors oui, je bois pas, je fume pas. Je suis un exemple pour la génération. Mais j'adore le casino et le sexe et j'en parle jamais dans toutes mes chansons.
Tu vois qu'on se lâche.
Les bons élèves, premiers de la classe. Je crois que c'est pas si vrai. Enfin, je sais plus trop. Les adultes voudraient faire de nous des exemples, de nouveaux symboles caricaturaux. Et le rap me regarde de travers. Il aimerait que je dévoile tous mes défauts. Il me défie, je mets les formes et il revient malgré tous mes efforts. Je suis qu'un artiste, j'écris forcément pour les gens. Je ne suis pas que mes désirs, la frontière entre ce qui me plaît vraiment et ce qui vous fera plaisir. À chaque fois je recommence pourtant. Ma vie et mes vœux, je t'ai en pâture. Oli m'a dit donne tout pour les gens, tout ça c'est grâce à eux. Mais j'en suis pas sûr.
Ce qui se façonne avec le temps s'en va avec le temps. Et c'est les têtards qui se prennent pour les meilleurs de tous les temps. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Mama, je suis une star, pardon si je ne réponds pas. Flash, photo, je signe autographe et contrat. Maman, je suis une star, pardon si je te réponds pas.
Dis-moi pour qui j'écris, entre vous et moi, une fine ligne. En vérité, je porte mon humilité comme un bling bling. Ai-je raison de lutter contre le temps comme un grand têtu? Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Séparer l'homme de l'artiste, si t'as une scie, j'en ai bien besoin. Presque d'être triste, tant pis si ça m'inspire un bon refrain. Égocentrique, je m'appuie sur le cœur des autres pour être à la hauteur. Je fais des titres sur les histoires de mes potes sans leur donner deux droits d'auteur. Privilégié, je vis le rêve de beaucoup, je m'accorde même une pause. Regarde-moi, j'ai fait des milliers d'euros en racontant ma vie de pauvre. J'ai fui les problèmes du quotidien, sur ma voile j'ai laissé souffler le vent. Je n'aurai jamais d'horaire, mais on me dit merci d'avoir trouvé le temps. Le succès.
Le succès.
Le remède pour ma confiance. Est-ce que c'est ce petit malade que je viens visiter? Ou bien c'est ma conscience? J'ai amplifié mes souffrances. J'ai emballé mes douleurs. Est-ce que ma tante me rait en fond d'écran si j'étais boueur?
Bah non.
Est-ce que c'est le hasard s'il y a art dans le mot arnaqueur? J'ai jamais dit non, je me cache derrière l'humeur de Flo ou le mail du manager. T'as vu comment mon lit est simple, je me nourris de vos commentaires. Mon esprit de sensu ira même jusqu'à censurer notre documentaire. Je parle de moi, j'ai mes trophées dans le salon, je retweet si tu me cites. J'aime aller voir les concerts des autres artistes, surtout si la salle est plus petite. Je serre des mains et je fais des photos, je suis presque devenu un politique. Et je veux tellement être exemplaire
que tu rappes ton autocritique.
France Inter. Affaires sensibles.
Philippe Artière, avant de revenir sur les négociateurs, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Je suis parvenu pour pas casser le propos. J'y reviens maintenant. Le parallèle que vous faites entre la guerre du Vietnam et cette révolte.
Oui, parce que cette jeunesse, elle est soit en prison, soit au Vietnam. D'ailleurs,
il y a un entre-deux quand même.
Il y a un entre-deux, soit dans la rue pour manifester contre le Vietnam. Je parle de cette jeunesse très mobilisée. Il faut comprendre que l'Amérique, à ce moment-là, vous avez parlé de The Movement, c'est une terre de contestation. C'est une terre de contestation.
D'accord.
Et c'est aussi une terre où le monde ne cesse de rentrer par des images. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister, sur le fait que ce sont des nouveaux médias et que pour la première fois, on voit la guerre à la télévision.
Absolument.
Et on va voir la guerre intérieure, la guerre à l'intérieur de la prison, par la télévision. Et ça, c'est peut-être plus encore que de faire rentrer une commission indépendante, faire rentrer des équipes à l'intérieur. Et tout ce qu'on a entendu en témoigne, c'est-à-dire si on n'aurait pas pu avoir tout ça, s'il n'y avait pas eu, c'est ce qu'on appelait les nouveaux médias. Et ces nouveaux médias, ils vont être au service après de la fameuse commission McKay dont vous avez parlé dans le récit, c'est-à-dire cette commission indépendante elle aussi, réclamée, enfin demandée, parce que Rockefeller sent bien qu'il y a un problème, il l'a demandé, et cette commission, elle va faire largement usage de ce nouveau média, et notamment avec des auditions à la télé. C'est-à-dire des auditions de détenus, de prisonniers. C'est quand même...
C'est très nouveau.
C'est nouveau, et je crois que pour les auditrices et les auditeurs, c'est important aussi de saisir comment cet événement est extrêmement contemporain à l'époque. Ouais. Contemporain de la société américaine, à la fois dans son côté noir, le Vietnam, et puis aussi dans qu'est-ce que c'est que les prises de parole ?
Les artistes sont parmi les premiers à manifester une solidarité avec les mutins et ensuite à dénoncer cette répression, comme quoi ça a quand même secoué l'Amérique. Je pense à John Lennon, bien sûr, avec Attica States et son album New York City, Al Pacino aussi. Qu'est-ce que ça dit du sentiment aux États-Unis ? Qui est divers, j'imagine. Bien sûr, il y a ceux qui trouvent ça bien, une répression comme ça, après tout, ce sont que des criminels et non ce qu'ils méritent, les autres qui sont indignés. C'est quoi le tableau ?
Alors, le tableau, on pourrait le faire avec l'un des co-auteurs du livre que Attica USA 1971, qui est Thierry Gervais, qui montre très bien comment à travers les news magazines, on a cette partition. C'est-à-dire qu'on a Time, Life, qui sont plutôt conservateurs, qui trouvent que quand même, qu'est-ce que c'est que ces mutins qui prennent en otage des surveillants, et donc qui font un focus sur cette violence et sur le fait que les prisons américaines sont devenues des écoles de la révolution. C'était le mot d'ordre des Black Panthers. Et puis on a Newsweek qui lui titre la tragédie d'Attica et qui voit tout de suite cette dimension, on dirait aujourd'hui, des droits de l'homme, qui n'existe pas à l'époque en termes, disons, ils sont pas dans le vocabulaire général les droits humains, même les droits humains.
Oui, c'est
bon. Et c'est pour Newsweek, qui montre des photos, qui met en avant des photos, et notamment ce dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire ce fameux serpent, ce snake, qui est ce serpent de prisonniers qui ont été mis nus, dénudés, les mains sur la tête, après la reprise, et qui est une ultime humiliation, c'est-à-dire, et qui renvoie évidemment à toute une histoire américaine, qui est celle-là de l'esclavage. Et les musiciens et les artistes, ils sont très sensibles. On a parlé du Vietnam parce que déjà le Guerilla Group, qui est un groupe d'artistes, s'est mobilisé, a déjà agi après le terrible massacre de Milley en 1968, quand un bataillon de GI massacre les habitants d'un village avec des manifestations au MoMA.
Ouais.
Le MoMA, c'est pas un lieu neutre. Hein. Le MoMA, c'est le musée que le gouverneur Rockefeller a offert à sa mère.
Ah oui, carrément.
Donc c'est un lieu Rockefeller.
D'accord.
Et il retourne ensuite au moment d'Attica. Il y a des manifestations dans ce fameux jardin du MoMA, que certains auditrices ou auditeurs ont peut-être eu la chance de parcourir. Et ils agissent là, c'est-à-dire au cœur même de l'institution culturelle, ce qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on peut aujourd'hui peut-être vivre.
Comment a évolué, si elle a évolué, la situation pour les prisonniers d'Attica et autres prisons américaines, après tout, dans les années qui ont suivi, employer une formule, et les gardiens et les prisonniers qui sont morts dans cette horreur sont morts pour rien, je veux dire. Est-ce que au moins ça a servi à améliorer les choses ?
Alors, ils sont pas morts pour rien, pour une raison d'abord, c'est que vous l'avez signalé, dans la culture populaire américaine, Attica est rentré massivement. Il est rentré massivement, on peut en donner deux, trois exemples. Il est rentré à travers Un après-midi de chien,
oui,
de Sidney Lumet, avec Al Pacino,
ouais.
Qui braque une banque et qui sort, il est cerné, il sort dans la rue et il dit Attica, Attica. Et tout le monde comprend, Attica, Attica est devenu un mot d'ordre. De même, dans La fièvre du samedi soir, John Travolta, il va sortir et il croise sa grand-mère italo-américaine.
Il lui dit ça aussi ?
Il dit Attica, Attica.
D'accord.
C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment de la... Voilà,
mais est-ce que le sort des prisonniers a changé, s'est amélioré ?
Non, l'Amérique aujourd'hui a plus d'1,8 million de détenus. Faut pas oublier qu'en France, on en a exactement, j'ai regardé avant de venir, a 60.
Ah, c'est votre fichier, vous ne retrouvez pas.
60, oui, 60.
Bon,
ça évolue
un
peu. Mais voilà, 72 000. On a 72 000 détenus en France. Donc Attica n'est pas simplement une histoire américaine.
Et je renvoie nos auditeurs, s'ils s'intéressent à cette affaire-là, à regarder la série Oz, si j'ose dire sans mauvais jeu de mots, montrer la réalité de certaines prisons américaines. Philippe Partière, merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la révolte d'Attica. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Bérini.